L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Tout à coup, tout devient silencieux. Un homme est assis seul dans une pièce au mur blanc immaculé. Il entend le silence. Il l'écoute même. Et dans sa tête, pourtant, c'est un tourbillon. Un torrent de sentiments. Les idées se bousculent. Comment y mettre de l'ordre? Calmer sa respiration. Elle s'interrompt par moments. Redémarre. Il pose son souffle. Respire en cadence. Trouver le calme. Se poser. Penser. Ou peut-être ne pas penser. Face à lui, dans cette pièce au mur nu, il y a deux portes. Ses yeux s'égarent sur quelques centimètres de peinture écaillée par les années. Mais son esprit ne trouve pas de répit. Il ne dispose que de quelques minutes et le temps s'égrène. De ces deux portes, l'une peut le ramener vers le bureau où il se trouvait il y a encore quelques minutes. L'autre le conduira directement sur le tarmac où un avion aux lettres Aeroflot, brillante, sous ce soleil de juin 1961, l'emportera pour Moscou. Après quelques minutes, capitale, décisive, l'homme se lève. Son regard est déterminé, puissant. Il sait qu'il joue pour toujours son destin et c'est bien sur la poignée de la porte, le ramenant dans le bureau de l'officier d'état civil français de l'aérodrome du Bourget, qu'il choisit de poser la main. Il est 10h15, ce 16 juin 1961, lorsque le danseur Rudolf Nureyev, malgré la pression du KGB, signe le procès-verbal de sa demande d'asile politique pour rester en France. 10h15, c'est l'heure H de notre histoire. Rudolf Nureyev a 23 ans ce 16 juin 1961, lorsqu'à 10h15, en terre française, il appose sa signature à la suite de ces mots « Je m'adresse à vous, sans aucune pression extérieure. Je ne veux plus retourner dans mon pays et je demande à bénéficier du droit d'asile. » Rudolf Nureyev est alors citoyen russe, né le 17 mars 1938 dans le Transsibérien qui transporte sa famille vers Irkoutsk. Farida et Ahmet Nureyev voyagent avec leurs quatre aînés vers cette ville élégante de Sibérie centrale aux rues majestueuses, bordées de palais néoclassiques, aux maisons de couleur à colombage et aux églises orthodoxes. Alors que Farida est sur le point d'accoucher, la famille Nureyev écrit son avenir. Les enfants, les yeux collés contre la vitre, perdent leur regard dans ces plaines semi-désertiques de Sibérie. Des plaines qui s'étirent jusqu'au lac Baïkal, celui que l'on surnomme ici l'œil bleu de Sibérie. Ses eaux cristallines, ses nombreuses îles et ses 31 000 km² font de lui le plus grand lac du monde. Ça et là, des constructions de bois, des chapelles aux clochers à bulbes, des maisons modestes recouvertes de manteaux neigeux parsèment le paysage sauvage et glacial de Sibérie. Et peut-être plus loin, devant, un avenir meilleur pour la famille Nureyev. C'est dans ce froid polaire, au cœur de cet hiver qui peut plonger à moins 40 degrés et ne dépasse pas 0 degré à cette saison, que le jeune Rudolf Nureyev voit le jour dans le Transsibérien qui le transporte vers Irkoutsk. Enfant du voyage, pour toujours. Issu de ces peuplades mongoles et turques d'Asie centrale, les traits mongols de ses parents d'origine tatare se lisent sur le visage du jeune nourrisson. Rudolf est d'une beauté à couper le souffle. Son premier cri d'une rage animale, ses yeux bleus, profonds, comme le lac Baïkal. Rudolf est déclaré quelques jours après sa naissance à l'administration d'Irkoutsk. Aucun témoin n'a pu donner l'heure de sa naissance. À cette période, la nuit tombe vite en Sibérie et personne n'a pensé à regarder sa montre. Ahmet déclare son petit dernier à la mairie de la commune la plus proche de sa caserne. Militaire, il est promu capitaine et laisse très vite Farida seule gérer leurs cinq enfants. Elle décide de s'installer avec ses filles et Rudolf dans un appartement sombre et sinistre de 9 mètres carrés en plein Moscou. Ils ne sont pas seuls. Il vit aussi dans des conditions extrêmes. un couple de personnes âgées qui se prend d'affection pour le petit dernier. Rudolf fait ses premiers pas sous l'œil attendri de ce couple de retraités qui le garde volontiers pendant que Farida peine à gagner quelques sous. Les lettres d'Ahmet s'espacent doucement. Farida souffre de l'absence de son mari. Le quotidien est difficile. Alors à bout, elle décide avec ses filles et le jeune Rudolf, qui n'a alors que quelques années, de quitter Moscou, trop cher pour Oufa. Oufa, l'industriel, à quelques 1000 kilomètres à l'est de Moscou, n'a rien de très séduisant si ce ne sont les berges sinueuses de sa rivière. Par beau temps, l'eau invite à la joie des enfants et parfois, lorsque le ciel est clair, on devine au loin les monts Oural. Les Nouraïev vivent à Oufa dans une certaine précarité. Ahmet Nouraïev, promu capitaine il y a quelques années déjà, a laissé son épouse seule avec les enfants, dans un petit appartement de 14 mètres carrés qu'ils occupent avec une autre famille. Ahmet n'écrit plus. Rudolf grandit dans cet univers de femme. Il est tendre avec sa maman, l'aide autant qu'il peut, mais il est fougueux et ne manque pas de caractère. Il donne bien du fil à retordre à Farida qui, parfois, se décourage. Mais c'est vrai qu'elle lui passe beaucoup de choses à ce fils, beau comme un dieu, dont elle est si fière. Rudolf est un enfant vif, impétueux, arrogant parfois, sans doute rêveur. À la belle saison, il descend les talus boisés, là où de petites maisons de bois aux toits colorés ont été bâties dans un joli chaos, et descend vers la rivière où il s'adonne à des jeux d'enfants. Il se rêve félin, sautant de caillou en caillou, s'envole comme un oiseau pour retomber quelques centimètres plus bas dans l'eau fraîche de la rivière. À 7 ans, il entre enfin à l'école. Farida souffle un peu et goûte avec plaisir ces quelques heures de liberté que lui laisse enfin son petit dernier. Rudolf, fier comme Artaban, peut enfin dire qu'il est à la grande école. C'est là qu'il découvre le chant et la danse, obligatoire en République soviétique. Le folklore ne le passionne pas, mais il aime le mouvement et le rythme. La couleur des costumes aussi. Pour Noël, la compagnie de danse d'Oufa donne une représentation à l'opéra. Les amis, les parents de l'école, les uns les autres s'y donnent rendez-vous. L'entrée ne coûte que quelques roubles et les représentations de l'opéra sont les seules distractions qu'offre cette petite ville industrielle d'Union soviétique. À l'affiche, des danseurs réfugiés du Bolchoï et du Mariinsky, les deux plus illustres compagnies de ballet russe, viennent renforcer les rangs. Pour le jeune Rudolf, c'est un jour de fête. Il porte son unique chemise. Il regarde sa mère. Elle est belle. Elle s'est maquillée ce soir-là. Ses cheveux sont tirés. Elle porte la robe qu'il aime tant. Elle le presse dans les rues d'Oufa pour rejoindre le théâtre. À la main, elle tient la rose qu'elle déposera sur scène à l'issue du spectacle. Passé les portes imposantes du théâtre, Rudolf s'installe dans l'immense salle aux couleurs chatoyantes. Son siège de bois claque. Un peu plus bas, les nantis occupent les premiers rangs sur des fauteuils en velours rouge. Dans la fosse, l'orchestre est en place. Les instruments s'accordent dans un brouhaha perceptible. Les trois coups résonnent. Le silence s'installe. Le chef d'orchestre donne la mesure et la musique emplit le théâtre. L'instant est magique. Le cœur du jeune Nouraïev bat la chamade. Il retient son souffle. Le rideau épais se lève lentement et bientôt, le premier danseur entre en scène. Pour Rudolf, c'est le choc. Ses yeux dévorent la scène. Il se laisse emporter par la grâce, par la légèreté, par ses corps d'athlète qui ne manifestent aucun effort. La musique l'emporte. L'émotion le submerge. Il observe chaque détail, plonge dans le tulle, dans les couleurs des tableaux, dans les chaussons joliment noués. Il s'émerveille de chaque mouvement. Il est déjà loin quand les applaudissements retentissent. C'est certain, il sera danseur. Son père, enfin de retour après 6 ans d'absence, ne l'entend pas de la même oreille et ambitionne de viriliser le jeune Rudolf. Fini la danse. Alors, tu feras de la pêche, mon fils. Mais les bords de la rivière Belaya, l'appât bien faible aux yeux du jeune enfant et l'hameçon désespérément statique, ne convainquent pas Rudolf qui s'ennuie terriblement à la pêche. Alors il tente le compromis. Il aimerait apprendre le piano, mais son père le lui interdit. Alors il ruse. Il obtient des cours gratuits, deux fois par semaine, auprès d'une ancienne danseuse. Auprès d'elle, durant 18 mois, il apprend les bases de la danse classique. On lui conseille également les cours d'une maîtresse de ballet de l'Opéra d'Oufa. Refus catégorique du père. Il suit ses cours en cachette et obtient très vite de petits rôles de figurant à l'opéra. Enfin, il va fouler le sol de cette scène magique. Il gagne quelques roubles, oh pas grand-chose, mais économise suffisamment pour se rendre à Moscou. Il rêve d'aventure, il rêve de gloire. Il rêve des plus belles scènes lorsqu'il monte dans le train qui l'emmène pour Moscou. Mais c'est une déconvenue. Sans ressources suffisantes, il finit par dormir dans la rue et, l'espoir déçu, rentre rapidement sur Oufa. C'est un échec. Rudolf ne se décourage pas pour autant. Il continue à travailler son pied, son coup de pied, ses pliés, ses sauts de chat, ses grands jetés. Le plancher de bois, l'odeur de la sueur, l'obsession du geste parfait. Voilà ce qui anime l'adolescent. Il travaille sans relâche et lorsqu'il est assis en classe, immobile sur son banc, c'est dans sa tête qu'il répète chaque mouvement. Dans la cour, il saute, il vole. Il se prépare pour le jour de sa gloire. Contrairement aux jeunes de son âge, il ne s'accorde que peu de répit, sauf pour aider sa maman. Il s'empare des sachets de plastique jauni, lavés et séchés devant le poêle. On manque de tout à l'époque. Il fait la queue docilement pour remplir la maison de quelques denrées alimentaires. La queue pour choisir son morceau de beurre. La queue pour payer le morceau de beurre choisi. La queue encore pour remettre le ticket, preuve d'achat du paquet de beurre. L'employé derrière le guichet ne sourit pas. Les gens se parlent peu. C'est le système, on n'y peut rien. Et la peur règne. Alors, on se tait. Parfois, il se rend chez le poissonnier. Pour les conserver, les poissons sont congelés pêle-mêle dans d'immenses blocs de glace posés tel un meuble à même un établi. C'est au burin et au maillet qu'on désolidarise quelques morceaux de glace et peu importe la quantité de poissons. Si c'est une queue ou une tête, on mangera du poisson, c'est déjà bien. Rudolf ne dit rien. Remercie d'un mouvement de tête et emporte avec lui le précieux sac jauni qu'on lavera et réutilisera la prochaine fois. Les habitants ont appris à ne pas parler, à ne pas se plaindre, surtout. Le KGB, le service de renseignement de l'État, est partout et sur toutes les lèvres. Mais si rien ne se dit publiquement, dans les cuisines des maisons, la peur règne. Alors surtout, se faire discret, se faire oublier par le système. Éviter les problèmes, les arrestations, les disparitions. Ne rien dire, se taire. Au moindre faux pas, c'est votre frère, votre voisin, votre ami qui paiera pour vous. C'est dans ce système de violence tacite que grandit Rudolf Nureyev. Il a 17 ans et vient d'entrer à l'Opéra d'Oufa. Chaque jour à l'aube, il se rend au cours, aux répétitions et travaille sans relâche, plus qu'un autre. Ses pieds deviennent superbes. Lorsqu'un danseur réceptionne un saut, il faut que ses orteils touchent d'abord le sol, seulement ensuite l'avant du pied se pose, puis le talon. Ah, c'est une mécanique précise, qui se joue techniquement à chaque saut. Rudolf répète inlassablement. Il répète chaque geste, chaque mouvement, chaque saut, jusqu'à ce que le moindre signe d'effort apparent disparaisse. Jusqu'à ce que la magie du mouvement fluide soit seule présente. Alors seulement, il s'accorde un court répit.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire du plus grand danseur de danse classique de tous les temps. L'histoire extraordinaire d'un homme qui, en quelques minutes, a fait basculer son destin, a bousculé la diplomatie, quittant le bloc de l'Est pour l'Ouest. Rudolf Nureyev n'a que 17 ans lorsqu'il intègre la troupe de l'opéra d'Oufa en Russie. Très vite, la compagnie part en tournée. Elle passera par Moscou. Et pour le jeune Nureyev, cette tournée est porteuse d'espoirs secrets. Exalté par ce voyage, le jeune danseur entend bien mettre à profit son temps dans la capitale russe. Il passe une audition au Bolchoï. Le prestigieux théâtre domine le cœur de la ville, affichant ses richesses, sa culture et son prestige. Tout danseur rêve d'y entrer et, pour Rudolf, l'enjeu est important. Peut-être qu'il pourra enfin quitter Oufa et, sans doute, s'autorise-t-il à rêver de gloire. Il est sélectionné. Mais faute de moyens, faute d'internat ou de système boursier, faute d'une famille à ses côtés pour le soutenir, le cœur lourd, Rudolf doit renoncer. Dans le même temps, le ballet de Leningrad cherche à recruter de nouveaux danseurs et envoie des courriers dans toutes les compagnies du pays. Celui qui veut tenter sa chance peut venir auditionner à Leningrad. Ce matin-là, en ouvrant l'enveloppe qu'il tient à la main, le cœur de Rudolf s'envole. Euphorique, dansant et tournoyant dans la rue, Rudolf brandit sa lettre de convocation. C'est certain. Il reprendra le train à l'aube pour Moscou, mais cette fois, il prendra ensuite le train de nuit qui l'emmènera à Leningrad. On lui servira peut-être un thé chaud dans le grand samovar. Il paraît que dans les wagons couchettes, on le prévoit pour les passagers. Arrivé à la gare, il s'autorisera peut-être un médovic, ce gâteau au miel dont on lui a tant parlé. Il prendra ensuite le trolleybus, traversera la Neva, longera le palais de l'Ermitage, autrefois résidence des tsars, parcourra l'artère principale de la ville, la perspective Nevski, découvrira quelques enseignes, même si les vitrines ne présenteront modestement que de rares objets, changera de tramway à l'angle de la rivière Moïka, ne passera pas très loin du palais où le prince Youssoupov assassina Raspoutine, et enfin se dirigera vers l'église Saint-Nicolas et ses bulbes dorées. Le square y est si joli pour se poser un instant. Il ne lui restera que quelques foulées à parcourir. C'est là, juste en face, que se trouve le théâtre Mariinsky, l'autre temple de la danse russe avec le Bolchoï. À l'époque, sous le régime soviétique, on l'appelle Kirov. Sa façade imposante, néoclassique, vert pâle, est pleine de promesses sur ce qui attend le visiteur. Un hall d'entrée, quelques couloirs transversaux et bientôt la scène, exceptionnellement large, vestige du cirque équestre qu'il abritait autrefois. Le rideau, lourd, épais, fait l'admiration de tous. Impérial, il est brodé de fils d'or sur fond bleu marine. Le plafond est décoré d'une fresque monumentale, les balcons dorés, le lustre à franges somptueux. Le lieu est mythique. C'est au théâtre Mariinsky qu'eurent lieu les premières de nombreux opéras russes, dont ceux du célèbre compositeur Tchaïkovski. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que cette année de 1955, Rudolf Nureyev intègre la très célèbre école Vaganova de Leningrad, celle qui, pour toujours, va changer son destin. Mais celle qui va modifier le cours de sa vie, c'est une petite jeune femme, frêle, arrivée tout droit de Paris. Nous sommes en novembre 1960 et Jeannine Ringuet est chargée de repérer à Leningrad les danseurs qui seront en tournée dans quelques mois à Paris. Si le niveau des danseuses satisfait pleinement la jeune femme, elle ne semble pas très convaincue par les danseurs que le directeur lui présente. Se dirigeant vers la sortie du théâtre, elle aperçoit l'affiche d'une représentation de Don Quichotte, prévue le lendemain. Curieuse. Jeanine Ringuet interroge le directeur sur ce ballet, mais étrangement, il semble l'en détourner. Le ballet serait poussiéreux. La distribution, de mauvaise qualité. Déterminée, passionnée. La jeune femme, malgré tout, assiste le lendemain à la représentation. Et là, stupéfaite. Elle découvre un jeune danseur, soliste, dont les qualités techniques sont tout à fait extraordinaires. Elle fait quelques clichés flous du jeune prodige dont elle ne connaît pas encore le nom. À l'entracte, elle se dirige vers une des ouvreuses avec qui elle a sympathisé lors de ses précédents voyages et l'interroge. Dites, c'est qui ce jeune danseur, le soliste ? C'est notre meilleur, répond l'ouvreuse. Il s'appelle Rudolf Nureyev. De retour à l'hôtel, Jeanine envoie immédiatement un télégramme à Paris et elle écrit « J'ai vu ce soir le plus grand danseur au monde. Il s'appelle Rudolf Nureyev. » La jeune Française souhaite comprendre pourquoi on lui a caché l'existence de ce danseur. Elle retrouve le directeur le lendemain, le questionne, mais les réponses évasives sur l'impossibilité d'envoyer Rudolf Nureyev à Paris ne la convainquent pas. Elle se heurte à un mur et pas question pour elle de présenter les danseurs du Kirov sans son plus grand danseur. Ce que Jeanine Ringuet ignore, c'est que si Rudolf Nureyev est le plus brillant des danseurs de la troupe, il est aussi le plus indiscipliné. Il refuse d'adhérer au Parti socialiste et n'assiste pas aux réunions de propagande russe. Son comportement inquiète. Il affiche un caractère fort, des sautes d'humeur et plus grave. Ses mœurs dérangent. L'homosexualité dont il ne se cache pas est jugée en Union soviétique comme un comportement subversif. Pour le système russe, il est plus prudent de le tenir à l'écart. Il faut dire qu'à l'époque, avant chaque tournée, les danseurs envoyés à l'Ouest sont soumis à une formation. Ce qu'il faut dire et ne pas dire lors des interviews ou auprès de la population. Des questionnaires sont fournis, les réponses également. Les attitudes sont décortiquées. Des agents du KGB accompagnent les danseurs à l'étranger. Tout est surveillé. Le KGB est le principal service de renseignement de l'URSS, un comité de sécurité d'État qui fonctionne comme une police politique. Jeanine Ringuet rentre à Paris sans garantie de la présence de Rudolf Nureyev sur la tournée française du Kirov. Déterminée, via son directeur, elle prend contact avec la ministre de la Culture à Moscou et 5 jours avant la date butoir, le tampon de l'ambassade est apposé sur le passeport de Rudolf Nureyev. C'est ivre de joie mais impressionné qu'il sort de l'avion qu'il a emmené avec la compagnie à Paris. Dès sa sortie, il se détache des danseurs et, dans son imperméable un peu étriqué, coiffé d'un béret basque, l'air sauvage mais heureux, il tombe dans les bras de Jeanine Ringuet et lui dit, dans un anglais teinté de russe, « Je sais ce que vous avez fait pour moi. »
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du plus grand danseur classique de tous les temps, Rudolf Nureyev, l'exceptionnel et indomptable danseur russe qui, en quelques minutes, a fait basculer son destin, provoquant l'ire de l'Union soviétique. En vue de son voyage à Paris, du haut de ses 23 ans, Rudolf a appris quelques mots d'anglais. Sa soif de vivre entend bien profiter de la capitale française. Très vite, il se lie d'amitié avec de nouveaux amis qui l'emmènent partout. Curieux, il sort, visite, découvre cette ville qu'il aspire, se grise, fait la fête des nuits durant. Dans les rues de Paris, Rudolf danse, saute, court comme un animal. C'est une tornade. Il envahit l'espace, il emporte tout. S'il mène une vie débridée la nuit, le jour, il danse sans relâche et sur scène. C'est le triomphe attendu. Le public parisien n'a Dieu que pour lui. La scène lui appartient. Il danse avec une rage animale. Son interprétation est magistrale. Ses yeux, son regard perçant, entraînent le public dans son mouvement. À chaque saut, il vole dans les airs comme un oiseau. Dès la fin de la représentation, Paris est à ses pieds. C'est un véritable triomphe. Des minutes entières de rappels et de cris. Il est le plus grand danseur du moment, l'étoile montante, et Paris l'adule comme une rockstar. La presse titre « Leningrad détient son nouvel homme dans l'espace ». Rudolf est incontestablement la vedette de la tournée occidentale du Kirov. Le KGB ne le quitte pas des yeux. Et si les agents du KGB se sont entretenus avec Rudolf et l'intiment de se calmer pour lui, il ne fait rien de mal. Il est grisé par Paris, curieux de tout. Les agents du KGB adressent à Moscou leur rapport sur l'attitude de Rudolf Nureyev. Cela ne modifie en rien le comportement de Rudolf, qui affiche ses extravagances au grand jour. Sa personnalité imprévisible, incontrôlable, inquiète les agents secrets. Rudolf vit ses 4 semaines parisiennes intensément et profite de cette nouvelle gloire dont il goûte les excès. Le vendredi 16 juin 1961, la troupe du Kirov prépare ses bagages. Elle quitte ce matin Paris pour rejoindre Londres, depuis l'aéroport du Bourget, où elle prendra l'avion. Les danseurs sont réunis dans l'aérogare. Rudolf s'est fait accompagner de ses amis parisiens, qui le saluent chaleureusement. On lui promet de venir le voir à Londres, c'est certain, et on refera des virées folles dans la capitale anglaise. Alors que la troupe s'apprête à passer la sécurité, 2 hommes en noir, ceux que Rudolf a indiqué à ses amis parisiens comme étant la surveillance soviétique, les 2 hommes du KGB l'éloignent du reste de la troupe. L'échange entre les hommes semble tendu. Les amis français s'inquiètent de la tournure que prend ce départ vers Londres, quand tout à coup, à la surprise de tous, Rudolf tombe à terre et hurle. « Il faut faire quelque chose! On me punit! On me renvoie à Moscou !» Ses amis parisiens assistent incrédules à la scène. Les danseurs baissent la tête doucement, alors qu'un genou à terre, Rudolf renchérit. « Je suis un homme mort !» Les 2 hommes en noir semblent évoquer une représentation spéciale à donner à Moscou. Il faut que Rudolf s'y rende. Mais le jeune danseur doute de cet argument. Il sait que s'il n'embarque pas pour Londres, à la suite du reste de la troupe, le pire lui arrivera. Dans l'aéroport, c'est la confusion générale. Personne n'ose intervenir auprès de ces hommes en noir, tandis que l'un de ses amis français tente de le calmer. Une amie rencontrée durant ses 4 semaines à Paris passe quelques appels. Sur les conseils de relations haut placés, elle quitte le groupe et monte 4 à 4 les marches qui la séparent du premier étage, emprunte un long couloir et débouche enfin dans le bureau de la police de l'air de l'aérodrome du Bourget. En quelques mots, essoufflée, tentant de garder son calme, elle expose les faits. Un homme, Rudolf Nureyev, qui vient de triompher dans tout Paris, est en danger, aux prises avec des agents du KGB. Il faut intervenir. L'affaire est prise très au sérieux par les agents de l'État. La diplomatie est en jeu. Dans ce cas précis, l'action des policiers est limitée. S'ils interviennent et s'emparent du danseur, ils sont formels, ce serait un enlèvement. À l'étage en dessous, dans l'aérogare, il règne un calme apparent. Mais en réalité, chacun mesure ses gestes et ses attitudes. Tout le monde a peur. En silence, osant à peine s'adresser des regards inquiets, les danseurs de la compagnie se tiennent un peu à l'écart. Le malaise est perceptible pour qui veut le voir. Celui qui, hier encore, était adulé par le tout Paris, a le visage blême. Encadré par les agents du KGB, les yeux de Rudolf Nureyev sont ceux d'un animal traqué. Le regard fou, dévoré par l'inquiétude, il cherche désespérément l'issue, mais c'est une course hors d'haleine qui l'entraîne vers l'horreur. Les idées s'entrechoquent, fusent et se cognent inexorablement au même mur. C'est l'impasse. Il pense à ses soirées folles dans Paris, à ses éclats de rire dans les cafés du quartier latin, à son émerveillement au détour de chaque rue, à ses bords de Seine, qu'il aime tant, à la douceur de celui qui peut-être a partagé ses nuits. Il pense à son triomphe aussi, à sa mère Aoufa, à l'absence de son père. Il pense à l'impensable, à tout ce qui se raconte depuis son enfance dans l'intimité des cuisines. Les récits de l'horreur, de l'inquiétude, des disparitions et du système. Ses idées prennent toute la place. Il se sent comme un animal fou. Une peur inextricable l'envahit. Il sait que s'il monte dans cet avion pour Moscou, le système soviétique le brisera, le cassera et peut-être le tuera. Quelques minutes plus tard, contactés par son ami, les deux policiers de l'air se tiennent au bar, un peu à l'écart des agents du KGB au centre desquels Rudolf Nureyev est assis. Son ami français, informé, s'approche de lui, prétextant de le saluer à nouveau avant son départ, et, s'inclinant pour l'embrasser, lui glisse furtivement à l'oreille. « Tu vois ces deux hommes au bar, là ? Ce sont des policiers français. Il te suffit de t'approcher d'eux. » Rudolf Nureyev, déterminé, se lève et marche vers ces deux hommes. Il a à peine quelques mètres à parcourir et, comme si le temps et les minutes s'étaient arrêtés, il leur dit d'une voix claire « I want to be free ». Les agents du KGB se sont levés d'un bond, tentent de s'emparer de Rudolf Nureyev, mais c'est déjà trop tard. Les policiers français ripostent quelques coups. Les hommes se battent et déjà, Rudolf s'éloigne avec les policiers français. Il ne reste plus au danseur qu'à signer sa demande d'asile politique. La loi prévoit pour y réfléchir sans pression quelques minutes de réflexion. Ce qu'a pensé le jeune danseur pendant ces minutes terribles est difficile à dire. En quelques minutes seulement, il a choisi de tout quitter sans retour possible. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Difficile à dire. Rudolf Nureyev avait-il vraiment le choix ? Dans cette pièce au mur blanc, tout à coup, le calme est revenu. Il a entendu le silence. Et dans cette pièce au mur blanc, pour toujours, il a choisi de ne pas rentrer en Union soviétique, laissant derrière lui sa mère, sa famille, sa patrie et ce pays qu'il avait vu naître. À 10h15, ce 16 juin 1961, Rudolf Nureyev signe le procès-verbal de sa demande d'asile politique et décide de rester en France. Au lendemain de cet incident, le danseur est en état de choc extrême. Il se sent littéralement comme un convalescent. Ses os, son corps, son cœur lui font mal. Sa tête implose. Il est brisé par le chagrin. Par le mal qu'il crée aussi. Bon, bien sûr, il lui a fallu du courage, mais trouvera-t-il le pardon des siens ? Il ne sort pas, il dort peu, ne voit presque personne et s'interroge sur la folie de ce choix. Il pense à sa maman, à la séparation, au chagrin qu'il lui cause. Et puis, il pense à son père et à sa colère peut-être. Il pense à sa famille. Il revoit les images de son enfance, Oufa, les années de bonheur, les berges de la rivière Belaya, l'odeur du bortsch de Farida. Elle est la seule à préparer la soupe russe à la betterave avec cette crème aigre et ce parfum de chou blanc qu'il aime tant. Il pense à sa patrie, aux danses folkloriques de son enfance, aux rues de Leningrad. Il faudra 7 jours à Rudolf Nureyev pour sortir du silence. Au lendemain de sa demande d'asile politique, les journaux français titrent « Rudolf Nureyev fait courir tout Paris ». La presse évoque le choix de la liberté. Du côté de l'Union soviétique, on tait l'événement. Rudolf Nureyev disparaîtra des programmes de danse et de tous les ouvrages susceptibles de l'évoquer. Il sera rayé de la mémoire de son pays. Si en France, l'événement fait la une de tous les médias, pour l'Union soviétique, c'est un pied de nez sans précédent. Et la Russie semble ne pas vouloir en rester là. Rudolf Nureyev, directement engagé par le ballet du marquis de Cuevas, recevra 3 lettres de Russie. L'une de son professeur, l'autre de sa maman et la 3e de son père. À la lecture de ces missives, il réalise que les mots manquent de spontanéité, d'élan. Ah oui, évidemment, ces courriers sont dictés par le parti. Dans la salle en soir de représentation, alors qu'il s'élance sur scène, le KGB a recruté des sympathisants communistes. Insultes, cris, le danseur est hué et voltige entre les débris de verre et les projectiles lancés sur scène. Il dansera jusqu'au salut final. Un peu plus tard, il apprendra que le KGB a cherché à lui briser les jambes. La pression diplomatique est si forte qu'elle le prive d'un contrat à l'Opéra de Paris. En Union soviétique, sa sœur voit sa carrière brisée. Son père est partout désigné comme le père du traître. Il envoie des cadeaux à sa famille, il envoie de l'argent et téléphone chaque semaine à ses proches. Il vit mal cette culpabilité. Il sait qu'il a choisi sa vie contre tout ce que pourrait subir sa famille. Mais Rudolf dévore la vie. Il s'envole pour le Danemark et rejoint le danseur Eric Brun, qui l'admire depuis toujours. Très vite, l'élève dépasse le maître. L'amour s'en mêle. Rudolf fuit une fois encore. Il rejoint le Royaume-Uni où il souhaite partager l'affiche avec une légende vivante. La ballerine anglaise Margot Fontaine. Elle a presque 40 ans et même si, dans un premier temps, elle s'inquiète de monter sur scène avec un jeune danseur, elle accepte finalement de partager l'affiche avec ce prodige venu de l'Est. Elle le taille comme un diamant brut. À ses côtés, l'enfant sauvage apprend des manières, se raffine. On dit qu'il s'entretient désormais d'égal à égal avec les plus grands. Désormais, on fait la file des nuits entières pour acheter des billets. Il affiche ses extravagances, nourrit les médias de ses sourires narquois et de ses silences intrigants. Il regarde les caméras en silence et sourit. Il sait qu'au plus la presse le rend visible, au plus il assure sa sécurité par rapport au KGB. Il se promène désormais avec un couteau en permanence. Il intrigue, il fascine. Il ne livre pourtant rien de lui. Alors que de retour en France, Rudolf Nureyev est nommé directeur de l'Opéra de Paris, que ses extravagances sont une fois encore montrées du doigt, l'Union soviétique a désormais laissé la place au régime de Gorbatchev. Le dirigeant soviétique qui mettra fin à la guerre froide accorde aux danseurs un voyage discret vers la Russie. Mais ce déplacement inquiète Rudolf. Ce voyage le rend très nerveux. Pour assurer sa sécurité, il prévient les médias de ce retour en Russie après 26 ans. Et c'est accompagné de Jeannine Ringuet qu'il monte dans l'avion. Lors de son arrivée à Moscou, c'est un homme tendu qui fait face au flash des photographes. La presse internationale s'est donné rendez-vous. La discrétion n'est pas respectée, mais Rudolf paraît plus rassuré. Après quelques heures passées dans Moscou, près de 26 ans plus tard, il revoit enfin sa maman. Face à lui, c'est une vieille dame malade qui, pensant qu'il s'agit d'un autre, lui demande des nouvelles de Rudolf. Elle ne l'a pas reconnu. La blessure pour Rudolf est terrible. Il a du mal à nouer des liens avec ses sœurs qu'il ne connaît plus. Leur vie les sépare. Il se sent comme un étranger dans sa propre famille. De retour à Paris, le cœur brisé, la solitude béante, l'errance d'une vie se referme sur lui doucement. Il est de plus en plus seul et s'empêche au bonheur. Il s'isole face à la mer et, tandis que le sida l'emporte doucement, il dit à un journaliste « Même pour être grand, il faut pouvoir être seul. » Le 6 janvier 1993, à l'âge de 54 ans, Rudolf Nureyev s'éteint sans autre religion que la danse. Selon ses souhaits, il repose au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois à Paris, une façon de revenir en Russie tout en restant en France. Voilà pour cette heure H. de Rudolf Nureyev, l'homme qui a forgé son destin. Un récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Armel Gissène.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.